Bienvenue à ce Disto Show complètement hors série, les chroniques de l'étrange. Et je me suis mis à réfléchir sur ma jeunesse à la fin des années 80, puis je me suis dit, ouais, il y a des affaires fuckées qui étaient discutées dans le temps, là, mais vraiment, tu sais, il y a des sujets qui ont été réglés depuis longtemps, mais quand je reviens en arrière, je me dis, tabarnouche, c'était tellement différent. Imaginez-vous, tu sais, il n'y a pas d'Internet, première des choses. Il y a un peu de téléphone cellulaire. La majorité sont boltés dans des chars. René et Nathalie Simard annoncent un tournant de leur carrière avec leur nouvel album « Tourne la page ». Hey, c'est n'importe quoi, ça. Le père Emmett Jones, hein, bonhomme au surnom de Pops, il a fondé l'organisme de la rue pour venir en aide aux jeunes. Pauline Marois annonce qu'elle se rallie à Jacques Parizeau. Il y a eu la commission Rochon. Il y a eu l'affaire Allen Gossett. L'autoroute 20 a pris le nom d'autoroute Jean Lesage. Il y a plein d'affaires de même qui se sont passées. Tu sais, c'était l'époque de Mike McPhee, de Patrick Roy, de Stéphane Richer. Bon, écoutez, Steinberg ferme. Puis, tu sais, c'était une grosse épicerie dans le temps. Fait que c'était complètement différent. Alors là, je me suis dit, je vais sortir des vieux segments de télévision 4 saisons, l'émission Caméra 88, puis on va rire un Christi de coup aujourd'hui. On va écouter des affaires qui, aujourd'hui, là, si on sortait ça en ondes à la TV, là, ce serait l'apocalypse. Là. Fait que, il n'y a rien de sérieux, OK? Vous allez m'entendre sacré, c'est normal. Aujourd'hui, on est deux pieds sur le pouf, on prend un verre de whisky, puis on s'en calisse. On écoute ça, on rit, pas d'émission recherchée, pas d'invités, pas de fla-fla, pas de fling-fling, juste du niaisage, juste du rire, on retourne dans le temps, c'est parti! C'était complètement outrageux à l'époque, de la manière qu'on approchait certains sujets. Il y a aussi l'ancien magazine Crow, là, où est-ce que c'était extrêmement trash, mais à l'époque, vraiment, c'était des animaux, là, tu sais, je veux dire, ça n'avait pas de crise de bon sens, là. Mais bon, c'est toujours très drôle de revenir 40 ans, presque 40 ans en arrière maintenant, puis voir ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, et puis le tissu de manipulation qu'il y avait derrière ça, c'était hallucinant. Là.
Pensez-vous que l'homosexualité est une maladie qui peut et qui doit être guérie? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul à penser comme ça. Depuis quelques années, les homosexuels sont devenus plus visibles. On avait l'impression qu'ils étaient mieux acceptés. Eh bien, imaginez-vous donc en plein cœur du quartier gay de Montréal, il y a un regroupement religieux qui prétend que la prière peut guérir du cauchemar de l'homosexualité. Nous avons rencontré trois hommes qui sont convaincus d'être des ex-homosexuels.
Ce rhumatisme va partir immédiatement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte ces gens!
Vous vous rappelez peut-être une des premières émissions de Caméra 86. On découvrait alors l'église Vie et Réveil du pasteur Alberto Carbone. Cet homme nous présentait ce qu'il appelait des guérisons miraculeuses et des témoignages de délivrance. Eh bien, voici que depuis quelques mois, l'Église Vie et Réveil a formé un nouveau groupe qui prétend se spécialiser dans la réhabilitation des homosexuels, hommes ou femmes. Cette cellule accueille chaque mardi soir une dizaine d'homosexuels qui veulent se repentir et sortir de ce qu'ils appellent leur vie misérable. Cette cellule a été fondée par Daniel Ryan. Daniel a vécu son homosexualité avant de devenir pasteur. Au sein de l'Église Vie et Réveil, il a réussi à accepter son passé.
Non, il y a un besoin, là. Il y a des gens qui veulent sortir de l'homosexualité, mais ils ne savent pas où commencer, par où passer, les questions, les réponses. Alors, on a décidé de fonder l'Oasis de paix pour être une ressource pour des personnes qui veulent sortir de l'homosexualité.
L'église Vie et Réveil est située en plein cœur du village gay de Montréal. Des homosexuels, Alberto Carbone en côtoie tous les jours depuis des années. Il affirme qu'il connaît bien leurs problèmes. Pour Alberto, l'homosexualité est un péché qu'il faut combattre en retrouvant la foi, en priant et bien sûr en faisant preuve de volonté.
Dieu aime l'homosexualité, pas l'homosexualité, mais l'homosexuel. Il aime la personne. Maintenant, le problème, c'est le péché. Je dis, Jésus est capable de briser ce péché-là ou de l'enlever comme tous les autres péchés. Alors, avec cette attitude-là vis-à-vis ça, on a commencé à donner espérance aux gens qui se sentaient eux-mêmes prisonniers de l'homosexualité. Puis c'est ça, les gens pensent des fois que les homosexuels veulent être comme ça. Pas tout le monde, pas tous les homosexuels veulent être homosexuels. Mais comment en sortir, ils ne savent pas, alors ils demeurent là.
La cellule Oasis de paix de l'Église Vie et Réveil, eh bien c'est un refuge pour les homosexuels qui n'acceptent pas leur orientation sexuelle. C'est le cas de Jean-Paul, 28 ans. Il fait partie de l'Église depuis un an. Il est pâtissier. Ses tendances homosexuelles se sont révélées tardivement. Jean-Paul pense que lorsqu'il était jeune, il n'avait rien d'un homosexuel.
Ben, je jouais avec des autos comme mon frère, comme mes frères. Puis je veux dire, je regardais les petites filles comme mon frère, puis comme mes frères. Puis à l'école, j'avais tout le temps des petites filles alentour de moi, puis j'avais des petites blondes. Puis je veux dire, je regardais pas les petits gars, absolument rien de ça. J'avais une carabine, j'allais à la chasse avec mon père. J'étais normal. Pour moi, j'étais un gars normal.
Jean-Paul est convaincu qu'il a cessé d'être ce qu'il appelle un gars normal à cause de ce qu'il a vécu. Sa mère est morte lorsqu'il avait 7 ans. Mais ce n'est pas vraiment à cela qu'il associe ses tendances homosexuelles. Jean-Paul est convaincu qu'il est devenu homosexuel à cause d'un viol dont il a été victime à l'âge de 15 ans.
Tu sais, je crois que ton père t'a donné une identité masculine, mais ta mère aussi, c'est important. Mais je crois pas que c'est le fait vraiment que j'ai parti une mère. Je crois que le fait que je me sois fait violer là, par un homme, là, que ça l'ait fait beaucoup ça aussi. Parce que je crois que ça a perturbé mon identité sexuelle beaucoup, beaucoup.
Après cette expérience, Jean-Paul commence à sortir dans les bars gays de la rue Sainte-Catherine. Curieusement, même si sa première expérience sexuelle avec un homme n'a pas été agréable, il commence à fréquenter les hommes. Et plus ça va, moins il y a d'amour dans les relations qu'il entretient.
Moi, c'était plutôt la drogue. Il y a presque pas un soir, je ne sortais pas en fumant 2-3 joints. Puis des fois, les fins de semaine, c'était à la côte. Puis ça, je me tenais aussi beaucoup dans ça. Ça me tenait, ça. La drogue, ça tenait à foncer plus dans l'homosexualité parce que je ne m'acceptais pas. J'avais honte de dire au moins, je ne le disais pas à personne. Je le cachais même à ma famille que j'avais des tendances vers ça puis que même j'avais un chum parce que j'avais honte de ça. Je ne trouvais pas ça correct.
Jean-Paul a peut-être été influencé par les préjugés que beaucoup de gens entretiennent envers les homosexuels. Incapable d'accepter sa condition, un jour, Jean-Paul se décide. Il se rend à l'église Vie et Réveil.
Je me suis assis, j'écoutais le pasteur emporter sa prédication. Puis là, le pasteur, il a dit, tous ceux qui veulent accepter Jésus dans leur cœur, avancez en avant. Puis je me suis dit, mais coudonc, je vais m'avancer en avant, j'ai rien à perdre. Je me suis avancé. Et puis, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire.
J'ai simplement mis la main sur lui, mais j'ai senti l'Esprit de Dieu. Je vais prendre contrôle maintenant.
Lors de sa première visite à l'église, Jean-Paul affirme qu'il a vécu une expérience très particulière. Il a eu l'impression d'être envahi par Dieu. Selon lui, Dieu était venu le délivrer de son homosexualité.
J'ai dit, Jésus, délivre-moi, je t'accepte dans mon cœur, délivre-moi de l'homosexualité, de la drogue, délivre-moi de ça. Puis là, j'ai senti, là, je peux pas t'expliquer, là. Là, il me lâche jamais. Je tremblais, là. C'était capoté l'expérience. Je suis mis les yeux rouges, là, puis Puis là, j'ai compris que j'étais rempli de la présence de Dieu, rempli de son Saint-Esprit, que Jésus était venu me laver dans son sang, que Jésus était mort pour moi, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour moi, puis que là, il m'avait lavé dans son sang, je l'avais accepté dans mon cœur. J'ai compris bien des choses.
Comme certaines personnes qui affirment que Dieu les a guéris de leur cancer, Jean-Paul affirme que Dieu l'a guéri de son homosexualité. Il y a 3 mois, Jean-Paul a vécu une expérience qu'il interprète comme un signe de guérison. Il a découvert qu'il pouvait être attiré par les femmes.
Je suis plus porté à les regarder. Puis ça, je l'ai remarqué il y a 3 mois. J'étais dans le métro, puis une belle fille qui est venue s'asseoir à côté de moi. Belle, là, ça se pouvait pas. Là, je me suis mis comme à capoter. Je dis, eh bien, belle, là, je capotais. Puis on dirait, ça, ben, voyons, qu'est-ce qui se passe, là, c'est la première fois, ça me dit, qu'est-ce qui se passe, là, je capotais. Puis là, j'avais le goût de parler, puis tout. Puis là, je me suis aperçu, hey, écoutons, il est en train de se passer quelque chose, là. Je commence à être vraiment à t'attirer vers les femmes.
Jean-Paul est convaincu que Dieu l'a instantanément guéri de son homosexualité. Cependant, tous les membres de la cellule Oasis de paix ne vivent pas les choses comme ça. Martin a 31 ans. Il est membre de l'Église depuis 2 mois seulement. Chez lui, rien de miraculeux. Présentement, comme s'il suivait une thérapie, il essaie de se libérer de son attirance vers les hommes. Il essaie de contrôler ses pulsions en priant Dieu.
Je sais qu'il est là. Je ne sais pas encore comment l'atteindre tout à fait. Je suis dans l'apprentissage. J'apprends à prier, j'apprends à prier. C'est déjà beau.
Martin affirme qu'il est lui aussi devenu homosexuel à cause d'une expérience vécue à l'âge de 13 ans. Il fait alors une fugue. Un automobiliste le fait monter dans sa voiture et lui propose d'avoir des relations sexuelles avec lui. Martin prétend qu'il a accepté parce qu'il était attiré par l'inconnu. Un peu plus tard, de retour chez ses parents, il aurait réalisé ce qui venait de se passer.
C'est du nouveau. Puis on s'est ramassé dans un dépotoir, puis ça s'est fait là. Un décor romantique. Je l'ai jamais oublié, celui-là non plus. Non, pas du tout. J'étais très consentant. Très consentant. Mais je suis rentré à la maison, puis je me suis lavé pendant 45 minutes, par exemple. Je trouvais ça dégueulasse après.
Comme Jean-Paul, Martin a trouvé sa première expérience très pénible, mais il cherche à la revivre quand même. Pendant des années, il a des relations avec d'autres hommes. Il passe son temps dans les bars gays. La drogue, l'alcool et le sexe deviennent ses seuls plaisirs. L'amour, on n'en parle pas.
Au début, c'était avec un petit peu de sentiment. Il fallait quand même qu'il y ait l'élément tendresse, mais plus ça a été, plus ça a dégénéré. Ça, j'en voulais même plus. Ces derniers 1000, là, c'était des relations sans... Je me souciais même pas de savoir le nom de la personne avec qui j'étais, puis c'est rien d'autre que la chose, puis bonjour les visites. Ça pouvait durer 5 minutes, 10 minutes, ça pouvait se faire dans un passage, n'importe où, autant que ça se fasse.
Alors qu'il y a encore beaucoup d'homosexuels qui font des efforts pour accepter leur orientation sexuelle, Martin, lui, lutte pour s'en délivrer. Il consulte des psychologues, des psychiatres et finalement, il se retrouve à l'église Vie et Réveil. Aujourd'hui, il ne prétend pas qu'il est guéri, mais il sent que son attitude change.
Il y a un mot que j'emploie, je ne dis plus « je suis gay », je dis « j'étais ». J'ai commencé à le mettre au passé. Quand je viens à la cellule maintenant, c'est que j'ai à apprendre. J'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Tant au niveau liturgique qu'au niveau spirituel, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à apprendre là-dedans. J'ai à cœur d'en apprendre beaucoup aussi. Ben, j'aime ça. J'en mange, je sens là. Je peux pas dire que je dis oui, j'accepte le Seigneur. Du coup, je commence à le ressentir là, après 2 mois. Je commence à ressentir ça, puis j'y crois maintenant. Je peux pas dire je commence, j'y crois maintenant. Je suis bien affirmatif là-dedans.
Le pasteur Daniel Ryan, fondateur de la cellule Oasis de paix, prétend qu'il est un ex-homosexuel. Il est convaincu que les homosexuels peuvent arriver à se guérir de leurs désirs en se tournant vers Dieu et en fréquentant des homosexuels qui seraient eux-mêmes guéris.
Quand tu arrives, puis tu vois que il y a de l'espoir, qu'il y a des personnes qui sont sorties de l'homosexualité, puis que oui, tu peux leur parler, puis oui, ils sont heureux, oui, ils sont mariés, oui, ils ont des familles, puis tu sais, ça marche, puis tu le vois.
Aujourd'hui, le pasteur Ryan est marié. Il a rencontré sa femme Sylvie il y a 4 ans quand il a fait son entrée dans le temple d'Alberto Carbone. Sylvie l'aide dans la mission qu'il s'est donnée, sauver les homosexuels. Elle connaît le passé de son mari et elle lui a tout pardonné.
La Bible dit qu'à celui qu'on pardonne beaucoup, il peut pardonner beaucoup. Celui à qui on pardonne peu, peut pardonner peu. Ça fait que moi, étant donné que j'ai été pardonnée beaucoup, je suis capable de pardonner beaucoup. Alors son passé, pour moi, c'est une chose qui est passée, puis c'est facilement oublié.
Selon le pasteur Ryan, Sylvie est un cadeau du ciel en échange de sa conversion à l'hétérosexualité. C'est une façon de voir les choses, bien sûr.
Ah, mon mariage avec Sylvie... pas de mots. C'est super. J'ai jamais été si heureux.
En s'abstenant d'avoir des relations, un pasteur oublie-t-il sa sexualité? De la même façon, un homosexuel oublie-t-il son homosexualité en évitant d'avoir des rapports? Nous avons demandé à nos hommes s'ils avaient encore les mêmes orientations sexuelles qu'avant.
Non. Ça sert à rien que je me retourne là, tu sais. Même cet été, je suis allé me baigner à la piscine, puis il y avait des beaux gars, tout ça, mais je me disais, non. C'est ça?
T'as plus aucune tentation.
Oui, j'en ai encore des tentations. Ah oui, j'en ai encore des tentations. Puis je crois que je vais en avoir toute ma vie. Mais sais-tu quoi? Jésus est là. Puis il me remplit. Il me remplit de sa présence.
Jean-Paul a encore les mêmes désirs qu'avant, mais il réussit à se contrôler en se tournant vers Dieu. Martin, lui, se sent encore très fragile. Il se méfie de ses désirs qui reviennent de façon cyclique.
Évidemment, j'ai peur des tentations. Ça serait te mentir de te dire que je ne serais plus exposé à ça, bien sûr. Il y a des cycles lunaires, il faut croire, comme les femmes en ont. Moi, j'ai des cycles là, qui viennent périodiquement, là, puis que je suis plus tenté qu'à d'autres moments, c'est physique. C'est même plus mental, parce que maintenant, j'ai réalisé qu'avec... même en me forçant cette sortie de ma tête, je pense pas.
Martin essaie de ne pas penser aux tentations, mais le pasteur Ryan y pense pour lui. Il prétend qu'il est important de parler de tout cela durant les rencontres de la cellule Oasis de paix.
On parle ici à l'Oasis de les tentations, de les chutes. Oui, il y a des fois qu'on va manquer, mais c'est pas le nombre de fois que tu tombes, c'est le nombre de fois que tu te relèves.
Les homosexuels de la cellule Oasis de paix se sentent délivrés. Ils vivent leur cheminement entourés de gens qui ont les mêmes croyances qu'eux. Et ils pensent qu'ils ont eu le dessus sur ce qu'ils considèrent comme une maladie.
Dans ses jambes, au nom de Jésus, dans son corps, c'est comme... Que Dieu n'est pas...
Alberto Carbone prétend que Dieu peut guérir les paralytiques et les homosexuels. La prochaine fois que nous le rencontrerons, nous lui demanderons si Dieu a inventé la maladie pour jouir du pouvoir de la guérir.
Il y a beaucoup de gens qui disent que l'homosexualité ne se guérit pas tout simplement parce que ce n'est pas une maladie. Il y a une différence entre se guérir de l'homosexualité et ne pas consommer son homosexualité. Jean-Paul et Martin sont-ils guéris ou ont-ils acquis tout simplement un peu plus de contrôle sur leur pulsion sexuelle? Ça, c'est le cas de le dire. Dieu seul le sait.
Alors, trêve de plaisanterie, capotez pas, là. C'est des segments qui datent entre 35 et 40 ans, là. Capotez pas, là, OK? On est là pour rire, on est là pour regarder l'évolution des sujets qui a été effectuée au fur et à mesure des années, des fois pour le meilleur, des fois pour le pire, mais on est là pour lâcher notre fou. Et puis, c'est en prenant le temps d'écouter ça en audio, sans nécessairement voir les faces à claques qu'il y avait à la télévision, que c'est encore plus drôle. T'écoutes tout le raisonnement derrière, puis tu dis, ben voyons, calice, que c'est ça? Mais c'est ça. C'est n'importe quoi. Puis, t'as-tu déjà bu ta pisse? Hein, boire ton urine. Tapis, calice, l'as-tu déjà bu? Ben non, c'est sûr que tu l'as jamais bu. T'es pas un cave. Mais dans les années 80, il y a un docteur fucké qui a passé à la TV qui essayait de faire croire au monde que c'était bon de faire ça. Un docteur, ouais, c'était un genre de naturopathe. En tout cas, on écoute ça.
Ceci est mon urine d'aujourd'hui. Je le bois d'une manière vivante. C'est l'eau de vie. Délicieux. Parfait. Pas de goût du tout. Légèrement salé. Délicieux.
Jürgen Busch est un adepte des médecines douces. Il pratique la naturopathie et il a, semble-t-il, découvert un élixir miracle, l'urine humaine. Jürgen Busch est l'instigateur de cette nouvelle pratique et il appelle ça, comme il se doit, l'urinothérapie.
J'ai débuté l'urinothérapie uniquement dans le cadre de mon enseignement. Dans le cadre de mes études en naturopathie, j'ai débuté l'urinothérapie en termes d'expérimentation sur moi-même et les membres de ma famille.
Mario a 36 ans. Pour lui, l'urinothérapie est une planche de salut. Depuis 20 ans, il a des problèmes avec son système digestif. Et selon ses dires, la médecine traditionnelle n'a jamais rien pu faire pour lui. En désespoir de cause, il se tourne vers Jürgen Busch. Le professeur Jürgen Busch est membre du Collège des naturopathes du Québec. Pour lui, l'urinothérapie trouve ses origines dans la nuit des temps. Il a même retrouvé des citations dans les anciennes écritures hindouistes et dans la Bible qui relate la consommation d'urine.
Dans l'écriture indienne, il y a beaucoup, beaucoup de références à l'urine. Et ils nous disent dans plusieurs livres comment utiliser la thérapie à l'urine. Ça faisait partie de leur religion à un moment donné, il y a déjà 3000 ans de ça. Il y a d'autres références comme ça. Par exemple, maudit soit celui qui gaspille son urine contre le mur. Ou bien il parle de boire l'eau de vie. Puis les interprètes de la Bible ont beaucoup de misère de définir qu'est-ce que c'est exactement l'eau de vie. Mais nous, maintenant, on sait que ça veut dire l'urine humaine.
Et ce n'est pas seulement dans la Bible et dans les différents livres sacrés qu'on retrouve des allusions à l'urinothérapie. Dans ce recueil de médecine populaire du Québec, on conseille aux personnes victimes de certains malaises de boire leur propre urine. Par exemple, pour combattre des brûlements d'estomac, on suggère de boire son urine du matin pendant 9 jours consécutifs. Pourtant, l'urine n'est-elle pas un déchet de notre organisme? Peut-être bien, répond M. Busch, mais tout de même.
L'urine est considérée par la médecine allopathique comme un poison, comme un déchet. Mais si on regarde les composants de l'urine, on voit que ça n'est pas un déchet du tout. Parce qu'il y a des composants comme un aliment. Les composants principaux de l'urine, ce sont des enzymes, des acides aminés comme des protéines, ce sont des vitamines, ce sont des anticorps, ce sont les hormones. Il y a plus que 200 composants dans l'urine.
Selon Jürgen Busch, les composants de l'urine ne peuvent être que bénéfiques pour la santé. Et toujours selon notre fin dégustateur de pipi, le fait de boire son urine ne peut qu'améliorer l'état de santé de personnes souffrant de certaines maladies. Décidément, pour M. Busch, l'urine a toutes les vertus.
Parce que l'urine a un effet désintoxicant, a un effet antiviral, antibactériel et antibiotique.
Alors dans les dernières années, 88, 89, 90, c'est là que j'étais allé voir les médecins pour dire, mais je suis prêt à me faire opérer n'importe quoi. Alors le médecin qui m'a examiné, après m'avoir examiné, il m'a tapé dans le dos, il m'a dit, t'es tellement magané mon gars qu'on peut rien faire pour toi.
Boire son urine, ce n'est pas évident. Au début, Mario est dégoûté, il n'arrive pas à le faire. Pour lui, ce liquide jaunâtre est malpropre. Mario commence donc par enduire son corps d'urine, question de s'habituer au contact. Après plusieurs semaines d'hésitation, Mario réussit à tremper pour la première fois s'élèvent dans cette véritable eau-de-vie. Eh bien, croyez-le ou non, Mario prétend que son état de santé s'est amélioré. Comment? Difficile de savoir, mais il en est convaincu. Mario a tellement été impressionné qu'il utilise aujourd'hui son urine à toutes les sauces, c'est le cas de le dire.
L'absorption de l'urine a permis la stabilisation de la température du corps, qui était sous la normale de plusieurs degrés. Et aussi, ça a permis la cessation des démangeaisons de la peau et la fermeture des plaies intérieures qui sont prouvées parce que le pus sort plus.
L'urinothérapie doit être nécessairement accompagnée d'un régime alimentaire sain. Cela est déterminant. La qualité de l'urine en dépend. Mario suit à la lettre un régime très sévère. Pour compléter sa thérapie, Mario a trouvé un truc pas mal intéressant, disons. Imaginez-vous qu'il saute sur une trampoline pendant 15 minutes chaque jour. Cela aura pour effet d'accélérer l'expulsion des toxines hors du corps par le biais de la transpiration. Alors, Jürgen Busch prétend que la consommation de sa propre urine lors d'un jeûne prolongé permettrait de conserver ses énergies.
J'ai fait un jeûne de 3 semaines et j'ai constaté que, contrairement aux autres expériences de jeûne que j'ai fait, je n'avais plus les sensations de faiblesse, les sensations de fatigue.
Jürgen Busch n'a pas fini de nous surprendre. Il nous parle ici du cas d'un célèbre personnage qui aurait survécu à un très très long jeûne en buvant son urine.
Le cas personnel et le cas le plus connu, c'est peut-être le cas du Jésus-Christ qui a jeûné dans le désert pendant 40 jours.
Jürgen Busch se défend bien d'être un prophète des temps modernes, mais il y a de quoi être sceptique devant les prétendues propriétés de l'urine. Nous avons demandé à quelques médecins de nous accorder une entrevue pour savoir ce qu'ils pensaient de cette étonnante thérapie. Ils nous ont répondu qu'ils ignoraient tout des prétendues vertus de l'urine. Mais l'un d'entre eux, un néphrologue spécialiste des reins, nous a assuré que la consommation de sa propre urine ne constitue pas un véritable danger. Busch prétend que l'urine a sûrement des propriétés thérapeutiques puisqu'elle entre dans la composition de produits pharmaceutiques. Malgré les convictions de Jürgen Busch concernant les vertus de l'urinothérapie, il a lui-même eu des réticences à consommer son urine, au début à tout le moins. Jürgen a reçu le genre d'éducation qui ne permet pas, pour des raisons hygiéniques, de boire son urine. Il a donc dû passer outre cet interdit.
Le jour où j'ai réalisé que mon mari prenait son urine, j'ai très mal réagi. Alors je lui ai défendu, j'ai dit « si tu continues de faire ça, je te défends de m'embrasser de nouveau ». Tu prends la porte ou je la prends.
Mais depuis, Mme Busch a totalement changé d'idée. Aujourd'hui, elle ne jure que par l'urinothérapie. Carmen Busch a trouvé dans son urine une véritable fontaine de jouvence.
Mon visage, je n'emploie plus aucune crème. C'est tout ce que je me mets dans le visage. C'est du rouge à lèvres et mon urine.
Vous vous massez le visage avec votre urine?
Oui, et je me lave la tête avec l'urine.
L'urinothérapie est une pratique pour le moins insolite. Il faut être sceptique face à ses prétendues vertus thérapeutiques, mais pour les personnes abandonnées par la médecine traditionnelle, l'urinothérapie peut devenir une quelconque planche de salut. Et si l'urinothérapie possédait toutes les vertus que Busch lui donne, imaginez les milliards de dollars qui, chaque année, prennent ainsi la route des égouts.
Les hommes battus, imaginez-vous, ils se sont réunis en meeting, puis ils se sont dit, on va se trouver des gars qui se font battre par leurs blondes, sûrement des grosses filles de 2,40, dans le genre Michelle Obama. Là. Puis là, ils se sont dit, il faut faire un show là-dessus. T'sais. Voyons, vous étiez complètement gelé sur la fraise. Là. Vous étiez sur la pinotte, c'est quoi? Là, mais c'est ça, les années 80, c'est ça. Puis écoute, on est là pour s'amuser, puis écoutez ça, c'est pas trop sérieux. Mais à l'époque, ça se prenait au sérieux. C'était ça qui était le plus drôle. En tout cas, let's go, on envoie ça.
En 1975 et en 1985, deux sondages importants ont été menés aux États-Unis sur la violence conjugale. Les résultats de ces sondages révèlent, entre autres, trois choses troublantes. 1. Que les femmes sont aussi violentes que les hommes. 2. Que depuis 10 ans, les hommes sont de moins en moins violents alors que les femmes le sont de plus en plus. Et 3. Tenez-vous bien, que 30 femmes sur 1000 sont battues par leur conjoint alors que 44 hommes sur 1000 sont battus par leur conjointe. Ça vous étonne? Eh bien, moi aussi, beaucoup. Nous avons rencontré deux hommes qui affirment avoir été battus par leur femme.
Il voulait me frapper avec un crucifix du Christ. Et j'ai tombé par terre sur le dos. Elle s'est mise à me bûcher. « Oh, toi devant moi, je vais partir avec les enfants. J'ai le droit de te frapper. Si les policiers arrivent, ils vont croire que c'est toi qui m'as frappé. Il n'y a rien là. C'est la femme qui a toujours raison. » Puis mes enfants criaient. Ma petite fille, surtout, j'oublierai jamais ça. J'aurais 90 ans, puis j'y penserai encore. Elle criait, elle pleurait. « Maman, frappe pas mon papa, je t'en prie. »
Est-ce qu'elle est arrivée avec essayer de vous frapper avec, je sais pas moi, un objet dur?
Ah oui, des outils parfois qui étaient là. Je me souviens entre autres d'une grande pince à un moment donné. Je devais me protéger, mais les coups pleuvaient.
Frédéric et François sont âgés d'une quarantaine d'années. Ils se sont tous les deux fait battre par leur conjointe. Et cela, plus d'une fois. Des femmes agresseurs, cela vous étonne? Pourtant, ça existe. Et pas toujours dans le cas d'un conjoint très dépendant ou handicapé. Frédéric et François, deux gaillards bien solides sur leurs jambes, se sont fait donner des raclées par des femmes qui pesaient à peine 110 livres. Aujourd'hui, ils sont tous les deux séparés, mais ils craignent encore leur ex-femme. C'est pour cette raison qu'ils ont voulu témoigner à visage couvert.
C'est un après-midi que j'arrivais de travailler et que madame était très agressive. Elle voulait me faire signer une déclaration disant que je lui laisse la maison, les meubles et les deux enfants. Alors elle était pas mal stressée, pas mal agressive. Elle se promenait avec un bâton de baseball. Elle m'en donnait des coups dans le gras des jambes et sur les hanches.
Ça a commencé lorsqu'elle brisait ses propres choses ou des pièces de mobilier ou de la vaisselle, par exemple, ou un pot de fleurs. Gratuitement, comme ça, j'étais figé. Je savais pas quelle attitude prendre. Et on échangeait à ce moment-là, au début. Je lui faisais part que c'était... Ça me bloquait, c'était ce genre de scène-là me renversait plus qu'autre chose, que c'était gratuit. Alors elle me disait, mais écoute, c'est ma façon de libérer ma tension. Alors je me dis à ce moment-là, si ça reste au meuble, ça peut toujours aller, mais ça a évolué.
Vous vous dites peut-être que les cas de Frédéric et de François sont exceptionnels. Pierre Marquis, un avocat spécialisé en droit matrimonial, n'est pas de cet avis.
Pour moi, il s'agit d'une réalité quotidienne que je vis. Je dirais peut-être une proportion de un dossier sur trois, il y a de la violence conjugale dans le dossier.
Des experts prétendent que certains hommes battent leurs femmes parce qu'ils ont besoin d'exercer leur pouvoir pour se sentir à la hauteur de notre société dominée par les hommes. Mais comment expliquer le comportement des femmes agresseurs?
Souvent, quand je parle avec le client, je m'aperçois que la madame, son père, battait sa mère. Des fois, le client est au courant que sa femme a déjà été battue par son père ou des trucs comme ça. Ça peut arriver de temps en temps. Mais à part ça, ça m'est difficile d'identifier la source de cette violence-là.
Ce n'est pas du jour au lendemain que la femme agresseur va assaillir son conjoint à coups de poing. Au début, elle use de violence verbale. Il semble que souvent, les femmes prennent plaisir à humilier leur conjoint en public. Frédéric se souvient encore du fameux après-midi où il était sorti avec ses enfants. Sa conjointe l'avait traité de tous les noms.
L'écœurant, le chien. Les enfants, vous partez avec votre chien galeux, vous n'y avez pas mis une corde autour du cou, tout ça en pleine rue. Même des fois que je me promenais tout seul sur la rue, madame passait avec son amoureux, lorsque je m'y attendais pas ou que je magasinais. Elle débarquait de la voiture, elle me regardait, elle me disait, « Oh, ben tiens, Qu'est-ce que tu dirais si je te frapperais dans la gueule, là? Il y avait son amoureux dans la voiture qui riait, qui l'attendait, souvent avec mes deux enfants sur le siège arrière. Elle me disait, tiens, le chien, j'ai envie de te frapper, là. Des fois, elle me donnait une claque sur la gueule ou des choses comme ça.
Frédéric était harcelé continuellement par sa conjointe au téléphone, et cela même la nuit. En plus des insultes, il y avait les scènes de cruauté mentale.
Elle arrivait à la maison avec des cassettes que son amoureux lui avait enregistrées, des cassettes langoureuses, des chansons là. Elle me faisait jouer ça à pleine face. Elle chantait dans la maison en faisant son ménage. « Je l'aime, c'est mon amoureux » en parlant de son amant. Toutes sortes de petits pincements comme ça pour me faire souffrir beaucoup.
Frédéric et François souffraient beaucoup des insultes de leur conjointe, mais ils ne croyaient pas que la situation allait dégénérer à ce point. Maître Marquis nous cite des cas de violence conjugale aberrants.
Mais il y en a qui sont victimes de... On leur lance la vaisselle. J'en ai un, par exemple, qui faisait de la peinture et que sa femme prenait un malin plaisir à déchirer ses toiles.
As-tu déjà vu ta femme chez toi dire « ça, ça t'appartient, je te le brise devant toi »
Ça, oui, j'ai déjà vu des choses comme ça, oui.
Comme quoi, par exemple?
Je l'ai vu déchirer des vêtements, ça, ça t'appartient, je le prends, je m'en vais avec, ou je le déchire, tu l'auras plus. Dans la maison, en pleine rue, partout, des coups de sacoche, de toutes sortes d'objets, de souliers, devant les enfants. Un jour, elle est arrivée, elle m'a sauté dessus devant les enfants.
Est-ce qu'elle vous a déjà blessé sérieusement?
Oui, j'ai été en clinique deux fois. Pour une oreille, puis les bras.
Emportez-vous encore des marques? Est-ce que c'était assez sérieux pour ça? Ou
Un peu sur les bras.
Parfois, la violence et la haine atteignent un point tel que certains hommes ont l'impression que leur vie est en danger. Maître Marquis a déjà été témoin d'un cas comme celui-là.
J'ai un cas en mémoire que j'ai plaidé il y a 3 ou 4 ans. La dame avait la garde d'un petit bonhomme de 9 ans et elle utilisait cet enfant-là à un point tel qu'elle lui disait de voler son père parce qu'il y avait plus d'argent, de le battre et tout ça. Puis effectivement, à la cour, la preuve a démontré que le petit garçon avait attaqué même son père avec un couteau déjà. Il y avait volé de l'argent. Et la dame, en tout cas, après 2 ou 3 jours d'audition, elle a perdu la garde de son fils.
Oui, elle m'a menacé. Elle m'a fait menacer par plusieurs personnes du milieu.
Quel genre de menace qu'elle disait?
Que j'allais me tuer. Que j'allais me retrouver dans un fossé.
Cela vous paraît sûrement inconcevable qu'un homme se fasse traiter ainsi par sa conjointe.
Parce que lorsque madame me frappait ou me menaçait, j'étais comme figé, j'y croyais pas. Et j'aimais mieux me protéger, surtout que les enfants pleuraient, criaient. Et lorsque je regardais madame, elle ressemble tellement à mes enfants que je pouvais pas la frapper, c'était contre ma volonté.
La plupart des hommes qui m'ont fait part qu'ils avaient été victimes de violence, à quelque niveau que ce soit, j'ai toujours constaté, ça m'a toujours été facile de dire « Ah, c'est un bon gars, c'est un gars... » Tendre, c'est un gars sensible. Souvent, ce sont des hommes que j'ai vu même pleurer dans mon bureau. Alors, dans ce sens-là, il y a peut-être un prototype chez l'homme battu comme il peut y en avoir un chez la femme.
Pour Maître Pierre Marquis, un homme qui se plaint d'être battu par sa femme doit être pris très au sérieux. Dans certains postes de police, il semble que ce n'est pas ce qui se passe.
Je suis arrivé là avec des marques de violence. Et je suis ressorti avec aucune charge qui a été prise. Alors, on m'a persuadé que, bon...
Que c'était pas plus sérieux que ça.
Mais non.
Que vous aviez à revenir et que tasser les affaires, et puis ça se réglerait par soi-même.
Exact. Même pas. c'est un embêtement. J'ai eu l'impression de les embêter plus qu'autre chose.
Afin de protéger les femmes battues, des centres d'hébergement ont été mis à leur disposition. Doit-on songer maintenant à créer un refuge pour les hommes battus? Sommes-nous prêts à considérer leurs problèmes sérieusement?
Je voudrais que les gens comprennent que les policiers, surtout et les intervenants, arrêtent d'avoir une idée préconçue sur la violence conjugale. Il n'y a pas seulement des hommes qui sont violents.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un de mes lives, j'ai déjà parlé d'un de mes chums au secondaire, ça arrive sud de Montréal, qui s'appelait Martin. Martin, ben, son père réparait des TV. Puis dans son salon, à Martin, il y avait une grosse photo en noir et blanc d'un gars avec les cheveux longs et une espèce de médaillon bizarre dans le cou. Il avait l'air de Jésus. Il s'appelait Raël. Ben, à un moment donné, c'est ça. Je mangeais chez Martin, mangeais des hot dogs, des affaires de même. Puis à un moment donné, il y avait comme une espèce de petit journal, là. Bon, assez cheap, là. On voyait que ça avait été fait d'une imprimerie bas de gamme. Puis c'était une affaire du mouvement raélien dans le temps. Puis c'était... La page couverture du petit journal, c'était « Se crisser de la confiture dans le cul pour le plaisir de l'autre ». Là, j'étais là, c'est comme « What the fuck ?» Eh bien, pour ceux qui n'ont pas connu Raël, parce que là, il est parti, il y a toujours du trouble Raël partout où il va. T'sais, il se fait mettre dehors de la France, il s'est fait mettre dehors ici du Québec, puis là, il y avait une ambassade extraterrestre, puis là, il est parti quêter les Africains en Afrique. Là. Je pense qu'après ça, il va se ramasser en Antarctique, mais en tout cas, ça le regarde. Mais il s'est dit des affaires à TV à propos de Raël. À l'époque où Raël, il était à mode, bien, tout le monde le passait. Fait que voici un segment à propos de Raël et le cul. C'est parti!
La semaine dernière, à l'occasion de l'Halloween, on vous a présenté un sondage enquête qui révélait que plusieurs Québécois étaient convaincus qu'ils avaient déjà eu des contacts avec les extraterrestres. Cette semaine, on récidive avec Raël, un prophète plutôt excentrique qui prétend que l'homme a été créé en laboratoire par les extraterrestres. Raël n'est pas un hurluberlu solitaire. Il a 20 000 disciples, dont 5 000 au Québec. Ce qu'il nous propose, en fait, c'est de vivre le paradis sensuel avant la fin de nos jours. Fini la notion de péché. Selon notre prophète, le sens de la vie passe, entre autres, par le plaisir sexuel. Raël a réussi à convertir 20 000 personnes à une religion athée qui remet totalement en question les fondements même de nos croyances religieuses, morales et scientifiques. Le 4 juillet dernier, une centaine de disciples arborant drapeaux et banderoles s'étaient donné rendez-vous à Mirabel afin d'accueillir Raël, ce personnage très particulier, dont la philosophie est déconcertante, voire choquante, pour le commun des mortels. Pour les adeptes du mouvement raélien, cependant, la pensée raélienne en est une d'espoir, de libération. Ce matin-là, à Mirabel, ils attendaient celui qu'ils considèrent comme l'homme le plus important du monde.
C'est pas l'homme lui-même qui est important, c'est le message qui est amené, qui est le message le plus important sur la Terre actuellement. Et moi, je ne suis l'homme le plus important sur la Terre que parce que j'amène ce message. Mais une fois que je l'ai transmis, je perds toute importance. Donc, aussi longtemps que je suis là pour le transmettre, je ne suis important que parce que je l'amène.
En 1973, Claude Vorion prétend avoir rencontré les extraterrestres dans les volcans de Clermont-Ferrand, en France. Ces derniers lui transmettent alors des messages capitaux pour l'avenir de l'humanité. Deux ans plus tard, ils reviennent et l'emmènent sur leur planète. Raël se souvient avec nostalgie d'un fameux banquet dont les invités étaient spéciaux.
Ils avaient organisé un repas. C'était absolument fantastique, avec une clairière très belle, avec des arbres formidables. Et il y avait un repas pour m'accueillir avec les 40 messagers qui ont existé depuis le début de l'humanité. Et parmi ces 40 messagers, il y avait Jésus, Moïse, Bouddha, Élie, Ézéchiel, enfin tout un tas de tous les grands prophètes qu'il y a eu sur Terre, qui étaient là, qui sont toujours vivants, qui sont maintenus scientifiquement en vie, pardon, qui sont maintenus scientifiquement en vie grâce à un système, à une technologie que les hommes commencent à redécouvrir qui s'appelle le cloning.
Quatre fois par année, Raël procède à une importante cérémonie qui démystifie le sacrement du baptême auquel procédait son frère Jésus il y a 2000 ans. Il s'agit de la transmission du plan cellulaire. Avant de se soumettre à cette cérémonie, les Raéliens doivent renier par écrit leur ancienne religion. Ils reconnaissent officiellement les Elohim comme étant les créateurs scientifiques de l'humanité. Par télépathie, Raël s'applique à transmettre leur code génétique dans les ordinateurs des Elohim. Depuis qu'il est revenu de leur planète il y a 13 ans, Raël prétend qu'il maintient un contact télépathique assez constant avec les Elohim. Si Raël a été envoyé sur Terre, c'est que nous sommes à l'âge de l'Apocalypse, terme qui signifie en grec « révélation ».
À son avis, nous devons à tout prix ouvrir les yeux puisque nous vivons une période cruciale où l'homme a le pouvoir de s'auto-détruire. Même si le mouvement raélien est apolitique, Raël ne peut s'empêcher d'affirmer que nos gouvernements actuels sont totalement inconscients.
Nous sommes gouvernés par l'imbécilité, par la médiocrité, par la médiocratie, des gens qui essaient de trouver des solutions quand le problème est arrivé. Or, gouverner, ça devrait être prévoir quels vont être les problèmes, proposer des solutions avant que les problèmes ne soient là. Imaginez-vous, avec ses yeux, ce nez, cette bouche, ses cheveux, avec ce regard.
Chaque année, Raël donne à ses disciples un stage de méditation sensuelle. Essentiellement, cette méditation a pour but d'éveiller le corps tout entier à la sensualité. En redécouvrant ses cinq sens, ses capteurs naturels, le raélien se sent en harmonie avec l'infini qui le compose et qui l'entoure. Sans aucune culpabilité, il apprend alors à jouir pleinement de ses sensations diverses, sensations que lui procurent les sons, les odeurs, les saveurs et les caresses. Par cette méditation, le raélien entreprend une lente déprogrammation de son cerveau.
On fait du naturisme et du nudisme sur le terrain. Quand on voit toutes les femmes habillées, par exemple, je parle pour les hommes, là, tout le monde est excitant, mais quand on voit tout le monde tout nu, finalement, c'est nettement moins excitant. Et puis, s'il y a une personne qui vous excite, c'est tout d'un coup parce qu'elle a un regard intéressant. Et c'est plus du tout parce qu'elle a une paire de seins plus grosse que les autres. Ça s'oublie très vite. Quand tout le monde est nu, on est forcé d'être plus vrai.
Les hétérosexuels sont entre autres invités à vérifier s'ils ont des tendances homosexuelles et vice-versa. Multiples partenaires, relations de groupe, tout est possible, pourvu qu'on en ait envie.
On peut avoir plusieurs amis, on peut être homosexuel, on peut être transsexuel, on peut faire tout ce qu'on veut, du moment que ça se passe entre personnes consentantes et entre adultes.
Pour les raéliens, les notions de jalousie et de possession sont très néfastes à l'homme. On doit simplement apprendre à s'en débarrasser. Même s'il a une relation privilégiée avec Lisa, une jeune japonaise, Raël n'en apprécie pas moins, comme vous le voyez, la présence occasionnelle d'une autre compagne. D'ailleurs, il offre la même liberté à Lisa.
Contrairement aux chiens ou aux animaux qui ne dominent pas leur jalousie et qui veulent être possessifs et qui veulent dominer le troupeau et avoir pour eux toutes les femelles, l'homme, avec sa conscience, peut respecter les autres êtres humains et, dans le respect, dans la compréhension, pouvoir libérer ceux que l'on prétend aimer. J'ai une compagne que j'aime, elle m'aime aussi. Si elle est intéressée pour avoir un moment de sensualité avec quelqu'un d'autre, c'est formidable. Et non seulement je ne vais pas la freiner, mais je vais même l'encourager. Et je sais qu'elle reviendra avec moi. Plus je la libère, plus elle reviendra avec moi. Et si elle ne revient pas, c'est que vraiment elle a trouvé quelqu'un qui la rend plus heureuse. Et c'est formidable.
En pratiquant les techniques enseignées par Raël, les Raéliens, surtout les nouveaux, ont l'impression d'avoir enfin découvert la clé du bonheur.
Ici, c'est des gens qui sont eux-mêmes. C'est des individus comme moi, des humains, avec qui je peux échanger. Puis ça, j'aime ça. Je manque ça au travail, je manque ça dans mon milieu normal, puis je l'ai ici. C'est un complément, disons.
C'est pas une question de sexe, c'est question sensuelle, c'est question d'un bien-être. Hein, que flatter quelqu'un qui est beau, puis tout, pour moi, c'est déjà extraordinaire.
Connu dans plus de 25 pays, le mouvement raélien compte près du quart de ses effectifs au Québec, avec 4800 membres. Les raéliens ont de 18 à 65 ans, et on les retrouve dans toutes les professions. Enseignants, infirmiers, ingénieurs, danseuses nues. Pour tous ces gens, l'existence des Elohim ne fait aucun doute. Quant à Raël, c'est l'unanimité. Tous ceux que nous avons rencontrés au stage québécois de l'été 88 ont affirmé qu'ils avaient une foi inébranlable en lui.
Juste à l'entendre parler, il connaît tous les sujets. On peut y poser sur n'importe quel sujet, il a toutes les réponses. S'il n'avait pas rencontré les Elohim, il n'aurait pas su toutes ces réponses-là. Il ne saurait pas quoi nous répondre. Il ne peut pas avoir changé d'être pilote de course du jour au lendemain à être prophète, là, puis savoir tout quoi dire. Il a fallu que les Elohim leur chauffent dans sa tête toutes les connaissances pour qu'ils puissent proclamer la bonne parole sur la terre.
S'il faut en croire Raël, les Elohim auraient demandé qu'on leur construise une ambassade afin qu'ils puissent venir sur terre bientôt. La dite ambassade serait construite en Israël ou dans un pays limitrophe.
elle coûterait de 8 à 9 millions de dollars. Les Raéliens ont déjà amassé plus d'un million. L'argent provient des cotisations des membres qui doivent verser un montant minimum de 55 $ chaque année. Il est également suggéré aux Raéliens de donner au mouvement 3 ou 10 % de leur salaire brut selon leur degré d'implication. Pour Raël, il n'y a aucun doute, nous devons nous préparer dès maintenant car les Elohim s'en viennent.
Les Elohim viendront entre cette année et 2035.
Mais là, on sera en retard dans la construction de l'ambassade.
Non, non, non. L'ambassade peut être faite très rapidement.
Claude Vorion a-t-il vraiment rencontré les extraterrestres comme il l'affirme? Rien ni personne ne peut le confirmer avant l'arrivée sur Terre des Elohim. En attendant, trois hypothèses sont possibles. 1. Claude Vorion a fait un beau rêve ou imaginé un scénario à la Spielberg auquel il croit fermement. Il ne serait pas le premier. 2. Claude Vorion est un imposteur intelligent et persuasif qui s'est inventé une religion qui lui permet de voyager à travers le monde et d'être considéré comme l'homme le plus important sur Terre. 3. Raël a vraiment rencontré les créateurs de l'humanité, les Elohim, et il dit la vérité, toute la vérité. À vous de choisir.
Fait que les années 80, c'était ça. C'était une époque assez fuckée. Quand même drôle par bout, tragique par d'autres. Bon, écoutez, il y a des enjeux de société qui ont été réglés depuis un Christi de bout, là, mais ça m'a fait plaisir de vous partager ça, ces bouts-là. Puis on va en trouver d'autres. Là, c'était tout issu de caméra 88. Là. C'est sûr que dans le temps, TQS, ça volait pas haut, mais c'était quand même du temps. Ils ont mis ça en onde. Hein. Imaginez-vous aujourd'hui remettre ça en onde. Là. Prime Spot, Christi, ça passerait pas. Mais c'était de l'époque. T'sais, à l'époque, pas d'Internet. C'était Stéphane Richer, le premier scoreur. Patrick Roy était là. Puis c'était ça. C'était complètement un autre monde. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. On va revenir avec des sujets beaucoup plus sérieux et structurés pour les prochains segments. Sur ce, merci et au revoir!